Deutsche Welle, Économie et développement.
Le Sénégal et une société chinoise ont annoncé récemment avoir signé un contrat pour la réhabilitation de la voie de chemin de fer Dakar-Kidira, tout près de la frontière avec le Mali. Qu'est-ce qui va changer pour les usagers? Notre correspondant sur place a pris le train. Et puis on parlera aussi des Marocaines embauchées quelques mois par an pour la récolte des fraises en Espagne, que l'on trouve ensuite sur les étals de nombreux marchés en Europe. Ces femmes sont victimes de discrimination, vous entendrez une sociologue qui a pu s'entretenir longuement avec elle. Vous écoutez le magazine Économie et Développement, Claire-Marie Costman au micro, bienvenue à toutes et à tous. Au Sénégal, comme dans d'autres pays africains, prendre le train n'est pas toujours chose facile, en particulier à cause de l'état des infrastructures. Les autorités de Dakar veulent tenter d'y remédier, avec à la clé la promesse de milliers d'emplois. Le reportage de notre correspondant Mamadou Laminba.
Il est 8h30. Ce coup de klaxon indique l'entrée du petit train bleu à la gare ferroviaire de Dakar. Un rituel pour les passagers qui proviennent de Thiès et de la banlieue de Dakar. Depuis des décennies, certains Sénégalais utilisent ce moyen de transport pour se déplacer seuls ou avec des marchandises. Mais depuis un certain temps, le secteur bat de l'aile pour cause la dégradation des voies ferroviaires. Ibrahim Andion est technicien à la gare ferroviaire de Dakar.
La voie est impraticable, surtout dans la banlieue. Il y a trop de cassures des voies.
Le vieux Moro Faye est usager du train bleu depuis des décennies. Il est un des témoins de la mutation du secteur.
Depuis 1885 jusqu'à nos jours, on n'a pas fait un pas pour le transport ferroviaire et qui est indispensable.
Indispensable. Abdou Denessal, secrétaire d'État sénégalais au réseau ferroviaire, explique pourquoi le chemin de fer est essentiel.
Les facteurs clés de réussite au niveau du chemin de fer, c'est la régularité. Il faut un transport régulier, c'est la ponctualité et la capacité, les poids qui sont permis. Par le nombre de rotations. Donc c'est ça qui est important pour un chemin de fer. Tout ça, nous n'avons plus ça dans le chemin de fer Dakar-Bamako, où la situation était détériorée, la situation financière de la société était quand même très détériorée, avec un endettement extrêmement lourd qui ne permettait plus de fonctionner.
Dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures de transport, l'État du Sénégal a signé un partenariat avec la Chine. Objectif, réhabiliter l'axe Dakar-Kidira sur le corridor Dakar-Bamako. Coût du projet, 754 milliards de francs CFA. Abdou Denessal, secrétaire d'État au réseau ferroviaire.
Conscient du rôle majeur que doit jouer le chemin de fer dans l'accroissement de la productivité économique du pays, le président Macky Sall a choisi de développer la vision d'un chemin de fer, adossé tout au grand projet minier porteur. Nous avons eu des promesses de financement sur un renouvellement de 1520 km de nouvelles lignes et de réhabilitation qui vont permettre la relance du chemin de fer parce que c'était un secteur qui est abandonné.
Comment les Sénégalais apprécient-ils cette nouvelle?
C'est une chose intéressante si ça se réalise. On attendait cela depuis très longtemps. Il y a des commerçants, il y a des gens qui veulent se déplacer très vite. Donc si le projet se réalise, ça arrange la population sénégalaise.
Si on pense à la réhabilitation, c'est une bonne chose.
Si les voies cheminots est meilleure, ça l'arrange, nous, ça sera rapide.
Ça ira quoi? Surtout pour les commerçants et commerçantes, ça ira quoi? Même pour les voyageurs ici, c'est très bien parce qu'actuellement, les cartes ne sont pas du tout sûres. Il vaut mieux prendre le train.
Je crois que c'est une bonne nouvelle dans la mesure que les chemins de fer ont constitué le levier du développement au niveau de l'Afrique.
C'est bon pour nous. Même maintenant, votre travail, c'est un peu lent.
La reconstruction du réseau ferroviaire va générer des milliers d'emplois pour les compétences locales et les jeunes du pays. Abdou Denessal.
La phase des travaux d'une durée de 4 ans nécessitera 20 000 emplois pour les Sénégalais. Dans la phase d'exploitation, nous avons à peu près 5 000 emplois ferroviaires que nous allons créer. Nous prévoyons de commencer la réalisation avant la fin de l'année 2016. C'est vraiment la relance du chemin de fer.
La réhabilitation de la voie ferrée va relancer aussi le commerce entre les régions du Sénégal. Objectif, faciliter le transport des personnes et des biens dans le pays. Abdou Denessal.
Il y a trois axes. Tamba Matam, Tamba Ziguinchor, Tamba Falémé. On va faire Tamba Ziguinchor parce que contournement de la Gambie est extrêmement important. Ça renforce notre indépendance par rapport à la Gambie. Il faut un transport de masse adéquat.
Au-delà du volet économique, le projet va aider à rapprocher les peuples. Une voie vers l'intégration des peuples de l'Afrique de l'Ouest.
Le train, c'est le support du transport des marchandises. Donc, qui dit déplacement de marchandises, dit déplacement de personnes. Qui dit déplacement de personnes, dit développement. Donc moi, je pense très bien que c'est une nouvelle qui vient à son heure, que ce train qui va lier, qui dira à Dakar, pourra peut-être desservir un jour les autres pays de la sous-région.
C'est le développement des relations inter-État et la mobilité des gens.
C'est un mouvement qui pourra permettre que les peuples puissent se connaître d'abord, que les cultures puissent s'embrasser. C'est-à-dire que quand les cultures s'embrassent, quand les cultures s'intègrent, je crois que le problème de l'unité africaine restera un point important pour le développement de notre continent.
Mamadou Lamine Ba, à Dakar, pour la Deutsche Welle.
Slow down, take your time, it'll be all right. If you decide to take it on the signs, take it easy, slow down, take your time.
Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Économie et Développement. Depuis les années 2000, un programme de migration temporaire a été mis en place par le patronat espagnol. Il permet d'embaucher pour une période donnée des femmes marocaines qui feront la récolte des fraises. Au Maroc, elles gagneraient entre 5 et 8 euros par jour. De l'autre côté de la Méditerranée, c'est 35 euros. Elles peuvent traverser le détroit de Gibraltar légalement, mais sur place ou au retour dans leur pays natal, la situation se complique. Écoutez Emmanuelle Elio, sociologue de l'immigration. Elle s'est rendue en Andalousie, mais aussi au Maroc, dans les foyers de ces femmes.
Les programmes de migration temporaire ont toujours cherché à assurer le retour du travailleur à la fin de la saison dans cette croyance que les gens pourraient rester de manière que provisoire, en fait. C'est un peu le modèle du gastarbeiter allemand. Et donc en Espagne, on assiste à deux mouvements, on va dire, des femmes qui se calent dans cette espèce d'aller-retour avec une organisation de la vie entre la saison en Espagne et puis une forme de vie domestique dans le pays d'origine avec leurs enfants, leur famille, etc. Et d'autres femmes qui, elles, décident de rester en Espagne malgré l'impossibilité de rester légalement au-delà de la saison et continuent leur chemin dans des conditions qui sont plus proches de celles des migrants irréguliers, on va dire.
Leurs conditions de vie, j'imagine, sont assez dures ?
Ouais, moi, j'ai tendance à dire que les conditions de vie dans ces zones-là, elles ne sont pas liées au statut légal ou illégal de la main-d'œuvre. Elles sont dues au fait que ces zones d'agriculture intensive ont finalement des marges de rentabilité très faibles et de plus en plus faibles quand on parle de l'Italie ou de l'Espagne. On parle de zones d'agriculture qui sont mises en compétition aujourd'hui avec d'autres zones qui sont situées plus au sud. Et si vous voulez, via le programme de migration temporaire qui existe depuis 2000 et que j'ai étudié, les patrons s'organisent pour faire venir des travailleurs depuis le Maroc. Sauf que quand ils préparent le contrat, ils ne leur signent pas un contrat avec un début de travail et une fin de travail. Ils les appellent quand ils ont besoin d'eux, puis ensuite, ces travailleurs sont sur les fermes, logés sur les fermes. La fraise, en fait, c'est une culture très fluctuante. Elles peuvent être mûres en 2-3 jours. Et à ce moment-là, il faudra beaucoup de main-d'œuvre. Et puis aussi, le marché peut ne pas être bon et on ne va pas cueillir pendant une semaine ou une semaine et demie. Quand on parle d'érosion du droit du travail dans ces zones-là, c'est que des travailleurs qui viennent pour travailler vont en réalité avoir accès à un travail complètement fluctuant. Sans se voir assurer un revenu minimum, par exemple.
Quelles sont leurs craintes, leur état d'esprit ?
Avec la crise économique en Espagne, le contingent d'ouvrières marocaines a baissé chaque année. C'est-à-dire que l'État a autorisé des contingents de plus en plus faibles de contrats d'année en année. Donc des femmes... Beaucoup de femmes avaient peur de ne pas pouvoir revenir en Espagne pour la saison suivante si jamais elles rentraient au Maroc.
Au début des années 2000, c'était combien de femmes ? Et l'an dernier, c'était combien ?
Alors au début des années 2000, c'était le début. Ça a augmenté jusqu'à 10 à 12 000 femmes dans les années 2010-2011. Aujourd'hui, elles sont 4 000. Plus de la moitié du contingent laissé sur le carreau. Donc des femmes qui ont eu à un moment l'opportunité de venir en Espagne et puis qui l'ont plus, c'est-à-dire qui sont rentrées au Maroc et qui n'ont plus jamais recroisé le détroit de Gibraltar. Ça pose des problèmes à différents niveaux, mais aussi un des problèmes que ces femmes-là rencontrent, c'est que finalement, on a affaire à un pays, le Maroc, qui est tellement tourné vers l'émigration, où la migration est une valeur tellement importante, que le fait d'avoir eu le droit de traverser, alors que beaucoup d'hommes ne peuvent plus le faire, d'être rentrés et de ne pas pouvoir repartir, en fait, c'est une perte de statut social dans le pays d'origine assez importante.
Et ce système profite vraiment au patronat espagnol, parce que c'est eux qui choisissent combien de femmes avec le gouvernement, combien de femmes peuvent venir, combien de femmes peuvent travailler. Il y a ce côté, où c'est quand même le côté espagnol que ça profite beaucoup, ce système.
Oui, c'est une politique migratoire de travail, quoi, qui est pensée pour le pays de travail. Ce qui est d'autant plus étonnant, en tout cas moi dans le programme que j'ai étudié, c'est que malgré le fait que pour moi il est profondément discriminatoire, parce que le fait de se servir de la place de la femme dans la famille et de ses enfants pour contrôler la mobilité du travailleur et être sûr qu'elle ne pourra pas s'échapper de la place qu'on lui a donnée dans les rapports de classe, pour moi, c'est quelque chose qui est profondément discriminatoire. Et pour autant, ce programme, il est subventionné par l'Union européenne comme étant un programme modèle de gestion éthique des flux migratoires. Finalement, on en vient à se demander... En quoi le fait qu'une migration soit légale, juste le fait de le dire, permet réellement une protection des droits? Il y a déjà une telle dépendance statutaire envers le patron qui devient difficile même de demander au travailleur de défendre ses droits. Il n'est pas dans une situation, ni la travailleuse ni le travailleur d'ailleurs, il n'est pas dans une situation qui lui permet d'avoir accès aux droits du travail.
C'était Emmanuel Elio, sociologue de l'immigration. Et c'est la fin de ce numéro. Pour le réécouter, c'est simple. Allez sur notre site dw.com/français, puis dans la rubrique médiathèque. On se quitte avec la chanteuse franco-marocaine Indizara. Merci pour votre écoute. Au revoir et à la semaine prochaine. Smile. Zara.